Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries créatives et culturelles de France Culture, en direct jusqu'à 20h30. Dernière émission pour nous aussi, dernière émission de la saison ce soir pour nous. À partir de demain matin, nous allons prendre nos quartiers d'été. Ce sera justement la grille d'été de France Culture jusqu'à la fin du mois d'août. Nous nous retrouverons quant à nous le dimanche 2 septembre. Occasion pour moi ce soir, comme l'a fait Julie Gacon il y a un instant, de remercier toute l'équipe de Soft Power qui a assuré l'émission tout au long de cette année. Une émission réalisée en alternance par Thomas Beau, Anne-Laure Chanel, Alexandra Candilo, Longuet, Sonia Leglen ou encore Milena Elig qui réalise cette émission, cette dernière émission ce soir avec en régie Clément Daté. Tout au long de cette année, cette émission a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux en première partie de l'année, c'était Nathan Marcel Millet et désormais Pierre Le Damani. Merci aussi à tous les chroniqueurs de cette émission, Emmanuel Paquette, Pierre Aski, Marjorie Paillon qui est là ce soir avec nous, Amaël Guiton, Marc Bassett, Anaïs Ginori, Stéphane Nos Montefiori, sans oublier l'indispensable, toujours à mes côtés, irremplaçable. Si elle n'existait pas, il faudrait, etc. J'ai nommé Zoé Sfez.
Merci d'avoir été. Très contente d'être avec vous, Frédéric, cette année.
Voilà pour les remerciements de fin d'année, mais il nous reste encore quand même du travail. Une émission, et nous parlons ce soir de la voiture autonome, la voiture sans conducteur. Alors que ce dimanche, la vitesse passe à 80 km/h partout en France sur les routes nationales et locales à double voie sans séparateur central. Ça ne vous a pas échappé, 80 km/h. Nous allons nous intéresser ce soir à l'avenir de la voiture, notamment la voiture connectée, autonomisée et surtout sans conducteur. Donc du coup, il n'y aura plus trop de problèmes de vitesse. En tout cas, on verra comment ça va se passer. Sommes-nous à la veille d'une révolution majeure qui pourrait se traduire dans un petit nombre d'années par la disparition pure et simple du conducteur, une révolution dans laquelle la voiture se conduira peut-être toute seule. Encore de l'ordre de la science-fiction, il y a quelques années, certains prospectivistes pensent désormais que la voiture autonome, c'est maintenant et que nous allons connaître de notre vivant, si on peut dire, dans les 5 années ou les 10 années à venir, la transformation presque totale de l'automobile. Alors pour parler de ce sujet ce soir et dans tous ses aspects, à la fois techniques, économiques, en termes de sécurité, de régulation, ou encore de transformation des usages, et pourquoi pas de soft power entre les Français, les Américains, on le verra aussi les Chinois, je reçois ce soir Emmanuel Egloff, journaliste en charge du secteur automobile au Figaro Économie, et Eliott Lepers, chroniqueur à France Culture, et Marjorie Paillon, journaliste à France 24. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Et puis à 20h, toujours sur ce même sujet, Zoé Sfez, votre invité innovation sera Guillaume Duc.
Guillaume Duc qui est maître de conférence à Télécom Paris Tech et qui est l'un des co-titulaires d'une nouvelle chaire qui est née il y a quelques mois, baptisée « Voiture connectée », parce qu'on en est encore à la voiture connectée, et « Cybercriminalité ». Il fait partie de ces quelques chercheurs, on va lui poser la question, de la recherche justement du monde académique qui travaille sur ces questions. Ils existent en France, ils ne sont peut-être pas si nombreux, et ça peut poser aussi des problèmes. On parlera évidemment de cybercriminalité, mais aussi de la place de la recherche avec lui dans cette révolution technologique, éthique, économique et industrielle.
La voiture sans conducteur, c'est maintenant, tel est le sujet de Soft Power ce soir. Toujours au sommet de cette émission, dans un instant actualité, où l'on parle du pass culture, des inrocks et de la panthéonisation, c'était ce matin de Simone Veil. 20h10, le numérique et politique, le débat de ce soir sera consacré aux entrepreneurs, demain tous entrepreneurs, point d'interrogation. On posera la question, avec pour en débattre, on posera la question à Alice Zaguri, PDG de The Family, Eliott Lepers, entrepreneur, qui restera avec nous. Nous voilà pour le sommaire de Soft Power ce soir. Vous pouvez suivre cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power sur Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Medium, Facebook, LinkedIn, en podcast et bien sûr sur France Culture en direct jusqu'à 20h30.
Alors, elle se battit pour que justice soit faite aux femmes. À toutes les femmes.
Justice pour les femmes détenues dans des conditions indignes qu'elle s'efforça quand elle était magistrate d'améliorer. Justice pour les femmes, leur indépendance financière, leur autonomie conjugale, leur égalité dans l'autorité parentale. Justice pour que leurs qualités et talents soient reconnus et utilisés dans tous les domaines. Pour les femmes meurtries dans leur chair, dans leur âme, par les faiseuses d'anges. Pour les femmes qui devaient cacher leur détresse ou leur honte et qu'elle arracha à leur souffrance en portant avec une force admirable le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse à la demande du président Valéry Giscard d'Estaing et avec le soutien du Premier ministre Jacques Chirac.
À l'instant, un extrait du discours officiel du président de la République Emmanuel Macron ce matin lors de l'entrée officielle des cendres de Simone Veil au Panthéon. Discours aux mots choisis, aux pas comptés. Ce n'était ni André Malraux pour l'entrée au Panthéon de Jean Moulin, ni François Mitterrand pour l'entrée de Jean Monnet, mais ce fut de l'avis presque unanime du grand Macron.
Oui, c'est du grand Macron. Après, c'était facile de faire du grand n'importe qui avec Simone Veil. Enfin, voilà, c'est une très belle matière. Je sais, affreux à dire, mais c'est quand même une grande âme. Il a fait le boulot. Alors, effectivement, c'est une espèce de triple hommage aux femmes. C'est d'abord Simone Veil, puis on rend hommage aux femmes qu'elle a défendues. Donc, on a le mot femme qui est revenu très, très souvent dans ce discours. Ce qui ne doit pas faire oublier que, quand même, les femmes au Panthéon, elles sont toujours vraiment pas très nombreuses et qu'il y a quand même une volonté depuis, disons, deux mandats de vraiment d'en faire rentrer et plus, mais il faut quand même rappeler qui sont les autres femmes qui sont au Panthéon, j'avais quand même envie de leur dire. On a la première femme qui est rentrée, s'appelle Sophie Berthelot, et elle n'y est pas en son nom propre, en fait c'est la femme de Marcelin Berthelot, un chimiste, et elle y a été intégrée, elle a été enterrée avec son mari au Panthéon pour ses vertus d'épouse, belle, douce et studieuse, et il faut savoir que son époux lui avait pas survécu de quelques heures, il a dit elle va mourir, je vais mourir après elle, et il est mort deux heures après, probablement suicidé.
Un peu comme Marie Curie d'une certaine manière.
Un peu comme Marie Curie, alors Marie Curie c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire qu'elle est morte après Pierre Curie, qui lui a été panthéonisé. Elle n'a pas été panthéonisée tout de suite. Elle a été la maîtresse ensuite de Paul Langevin, qui lui aussi a été panthéonisé. Tout ça, ça faisait compliqué. Et en 55, on a fini par transférer ses cendres au Panthéon, mais avec celles de Pierre Curie. Donc il a fallu quand même qu'elle y aille avec Pierre Curie. Elle n'y serait pas rentrée toute seule. Et après, on a quand même deux autres femmes qui ont été panthéonisées. C'est Geneviève de Gaulle-Antonioz et Germaine Tillion sur décision de François Hollande en 2015. Oui, mais en fait, elles n'y sont pas. Pourquoi ? Parce que comme elles étaient mortes auparavant, et les familles ont refusé que leur corps soit transféré au Panthéon. Donc elles sont panthéonisées, mais il n'y a que la terre de leur sépulture qui est au Panthéon. Il y a quand même 13 noms de femmes qui sont sur les murs du Panthéon. Bertie Albrecht, Marguerite Aron, Odette Le Noël, je vous en passe quelques-unes. Mais il manque quand même toujours, et il reste toujours des débats sur la panthéonisation de femmes comme Olympe de Gouges, comme Simone de Beauvoir, comme Charlotte Delbault, comme Louise Michel, ou comme Georges Sand. Pour le moment, on n'y est pas encore. Voilà.
Marjorie Paillon.
Oui, ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'était finalement les trois arrêts qui étaient proposés tout au long de la cérémonie et du parcours, surtout des cercueils d'Antoine et Simone Veil pour aller jusqu'à l'entrée du Panthéon. C'est trois arrêts qui, parce qu'en fait, l'histoire
très
de Simone
symbolique.
Veil... Très symbolique, mais c'est surtout parce que Simone Veil, c'est l'histoire du XXe siècle. Oui. Elle se confond avec cette histoire-là dans ses moments les plus sombres, comme dans ses moments les plus lumineux, en tout cas, et ceux de résilience. Donc, il y avait un premier arrêt qui était vraiment celui du droit des femmes. Évidemment, on revient sur 1974, la loi de l'adoption autorisant l'interruption volontaire de grossesse. C'est un combat fort, évidemment, de Simone Veil. Un deuxième arrêt qui symbolisait plutôt le combat européen de Simone Veil. Encore une fois, elle a été quand même la première femme à prendre la tête du Parlement européen en 1979, première présidente tout court d'ailleurs de ce Parlement. Et puis un troisième arrêt qui était là plutôt pour célébrer la mémoire de la déportation. Oui. Mais encore une fois, elle a toujours refusé d'être uniquement réduite à cette question-là de rescapé ou de ce statut de rescapé d'Auschwitz. Mais voilà, c'était vraiment une complémentarité et finalement quelque chose qui accompagnait très bien cette histoire du XXe siècle que peut-être certains enfants dans l'assistance ce matin n'avaient pas en tête ou n'avaient pas connu.
Une réaction peut-être, Eliott Lepeyre, sur cette entrée officielle, non pas des cendres, mais du cercueil de Simone Veil au Panthéon.
Oui, moi je pense que c'est évidemment un pas essentiel et un symbole très fort qui vient aussi dans une période où on a vu avec l'Irlande, avec l'Argentine, voilà, plusieurs décisions fortes dans le monde de l'accès à l'avortement pour les femmes. C'est encore un combat aujourd'hui. C'est encore d'ailleurs un combat en France pour plein de femmes. Donc je trouve que ça réactualise.
Avec des inquiétudes aussi
en Europe,
aux États-Unis.
Sans oublier aux États-Unis, la peut-être future nomination d'un des juges à la Cour suprême qui pourrait renverser Roe versus Wade, qui est l'arrêt vraiment emblématique donnant l'autorisation à l'avortement. l'avortement aux États-Unis. Donc on est quand même dans un moment qui est très compliqué pour le droit des femmes à disposer de leur propre
corps.
Et
une régression en Italie qui est très très importante.
Absolument.
Parce que les médecins, il faut le rappeler, ont le droit de ne pas pratiquer d'avortement s'ils le souhaitent, et qu'on est dans des conditions très très difficiles aujourd'hui en Italie.
Et peut-être un élément qui me parle aussi, c'est de se dire que quand la loi avait été défendue par Simone Veil, elle n'avait pas été faite au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais au nom d'une question de santé publique, quoi. Donc c'est aussi de se dire que ça dépasse simplement les camps partisans, comme on essaye parfois de le rappeler.
Alors, second sujet, ce soir, Françoise Nyssen, après une deuxième, énième, on pourrait presque dire réunion d'orientation sur le fameux pass culture, a précisé cette semaine, je dirais presque enfin, les modalités de ce pass, même s'il subsiste. Zoé Sfès, plusieurs inconnus, on sait au moins quelle forme définitive il pourrait prendre, vous voyez, quand même
prendre.
Au
Alors,
conditionnel.
En fait, il est quand même, pour le coup, on va dire, dans l'objet technique qu'il est, on est quasiment sûr que ça restera ça. On en a beaucoup parlé de ce pass culture qui a été imaginé, il faut le rappeler, avec des lycéens, dans des ateliers, puis qui est testé par 400 d'entre eux depuis la fin du mois de mai. Donc ce sera bien une application mobile qui recense des propositions culturelles géolocalisées. Dans sa version finale, mais on n'en est pas là, il sera crédité donc de 500 € et accessible aux jeunes à l'âge de 18 ans pour toute l'année de leurs 18 ans, pour leur permettre de participer à des activités, concerts, cinéma, théâtre, musée, mais, et on le sait aujourd'hui, elle l'a confirmé, cours de danse, de chant et jeux vidéo, ça c'était un des objets, et bien sûr abonnement à la presse, mais aussi aux plateformes de musique, de vidéo et d'achat de livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Netflix, Amazon and Company seront bien là. Mais le but, affirme Françoise Nyssen, l'objectif numéro un, c'est d'encourager la découverte et la diversification des activités culturelles. Donc concrètement, comment ça se passe? Il y a une image intrigante, délicieuse, qui est là pour susciter votre désir, avec une information qui est le tarif et la distance qui apparaissent. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous cliquez, vous faites glisser l'image vers le haut et vous avez les infos complémentaires, c'est-à-dire le prix, les modalités pratiques d'accès et la possibilité de réserver une place. L'idée qui avait émergé chez les lycéens de créer des groupes un peu sur un modèle de réseau social, c'est-à-dire je verrai tel copain qui serait intéressé par tel événement, pour le coup n'a pas été retenu, voilà, alors que les lycéens expliquaient que le fait de voir peut-être un ami se décider à aller au théâtre, ça les aidait à franchir le pas. Visiblement, on n'en est pas encore là.
Donc l'un des enjeux, c'est le périmètre de contenu proposé sur ce pass et la présence, non, vous l'avez dit, des acteurs numériques, notamment américains.
Voilà, évidemment, ces questions-là s'étaient posées, et puis la question aussi de quel type de contenu on aurait. Rappelez-vous, le directeur de la Comédie de Valence, qui avait pris à partie en mars la ministre, qui avait déclaré quelques jours plus tôt sur le nouveau Star Wars, énième Star Wars de Disney, il doit vraiment être dans le pass culture, lui d'interroger, mais quel intérêt, puisque de toute façon le jeune y serait allé. Et bien d'autres répondaient, de toute façon ce Star Wars, il aurait tendance à le télécharger, peut-être qu'aller le voir en salle, c'est le début d'une démarche culturelle. Bon, la vraie question, c'était évidemment la présence d'Américains comme Netflix, Amazon, Google, Spotify. Donc maintenant, on sait qu'ils sont là. Oui, mais, nous dit Françoise Nyssen, le pass est designé pour éviter qu'il capte toutes les demandes. Comment? D'une part, parce que l'algorithme du pass culture est censé mettre plus en avant les offres du secteur public et des petits acteurs indépendants. Je vous vois sourire, Frédéric. Nous sourions tous. Néanmoins, c'est comme ça. Librairies, associations. Et d'autre part, et là, c'est là que la ministre a un argument peut-être de plus de poids, les utilisateurs auront des plafonds. Mais alors, on ne sait pas lesquels, de dépenses pour certaines catégories d'offres numériques. C'est-à-dire que sur les 500 €, vous ne pourrez pas tout mettre. En tout cas, évidemment, ça désigne Netflix, Deezer ou Spotify. Alors, quel est ce plafond et est-ce que ça dissuadera, en tout cas, ça encouragera les lycéens à aller à la Comédie de Valence, par exemple? Ça reste, par exemple, une des inconnues.
Alors, une autre inconnue, c'est la question du financement de ce pass qui doit coûter chaque année environ 500 millions d'euros, ce qui, sur plusieurs générations, va faire beaucoup d'argent, surtout si c'est juste pour un couteau suisse, à moins que ce soit pour un GPS de la culture ou encore pour une usine à gaz.
Ah ben ça, c'est l'avenir qui nous le dira, Frédéric. En tout cas, ce que dit la ministre, c'est que tout va bien, même si entre les lignes, on comprend qu'en fait ce financement, il dépend largement de négociations qui sont en cours, voire qui en sont quand même à leur balbutiement. Donc Françoise Nyssen, que nous dit-elle? Elle nous dit que l'État va participer à hauteur de 20%, ce qui est déjà beaucoup sur 5 millions d'euros, et que 80% de financement de ce pass culture viendra de deniers privés. La ministre nous dit surtout qu'elle compte sur des partenariats pour éviter des prix trop élevés. Donc concrètement, avec des acteurs publics, comment ça se passe? Un jeune peut être débité 10 € pour une place de spectacle que le ministère, en tout cas une association, aura négocié pour lui, soit gratuitement, soit à 5 €. Donc le coût réel sera moins important. Quant aux géants du numérique, eh bien Françoise Nyssen entend qu'ils participent gratuitement à ce Pass Culture. Je cite, un effort sera demandé aux géants du numérique. Ils doivent venir sur la base de la gratuité. Et si Netflix, par exemple, entre dans le Pass Culture, eh bien il devra proposer davantage de contenu européen. Alors, ça fait beaucoup de si, d'une part, quand même, dans l'absolu. Et puis, la question cruciale, c'est est-ce que Netflix, Amazon et tous leurs copains, qui, alors Amazon devra en plus respecter le prix unique du livre, ce qui en soi n'est pas gagné, auront envie de venir gratuitement sur ce Pass Culture? Ça, c'est quand même une des questions qu'on peut se poser. Ce qui aussi, évidemment, conditionne la question concrète du financement. En tout cas, la ministre a annoncé la création d'une association qui a été créée pour gérer le Pass Culture. Elle compte seulement 10 personnes pour le moment. Et elle doit être, je cite, la structure porteuse chargée de démarcher les partenaires, de régler les problèmes juridiques, techniques, de droit, de boucler les budgets et aussi, évidemment, de labelliser les offres. Alors, il me semble que c'est quand même une lourde charge pour ces 10 pauvres personnes pour le moment. Mais en tout cas, c'est ça le but, d'avoir une association qui s'occupe de tout ça en amont.
Pour terminer, le calendrier de la généralisation semble assez serré.
Oui, c'est ça qui est très ambitieux dans ces annonces. On sait qu'aujourd'hui, le pass est testé depuis la fin du mois de mai par 400 personnes, 400 jeunes dans 5 départements. Et dès la rentrée 2018, là, ce sera 10 000 jeunes qui vont expérimenter le pass. Pour le coup, cette fois-ci, en conditions réelles pendant 6 mois, avec un crédit de moitié, donc 250 euros. Le but, c'est d'identifier évidemment les choix qui seront faits, les plus fréquents, de manière à améliorer l'algorithme et à diversifier l'offre. La généralisation est quand même prévue assez vite, puisqu'elle doit venir pendant le premier trimestre 2019, donc dans à peine 6 mois.
Une réaction peut-être sur ce Pass Culture, Marjorie Paillon ?
Il faut voir si déjà les galops d'essai qui vont être effectués à partir du mois de septembre vont s'avérer révélateurs. En effet, alors quelle est la consommation potentielle et véritable de culture dans jeunes de 18 ans ? Ça fait toujours rire quand on me dit jeunes de 18 ans, parce que c'est quand même déjà, en l'occurrence, de futurs adultes et de futurs consommateurs de biens et de services culturels qui ont déjà forgé forgé un parcours par ailleurs.
Donc, d'ailleurs, certains disent que c'est trop tard.
Oui,
il fallait le faire à 12 ans, à 14 ans.
Oui, c'est 18 ans, c'est peut-être un peu trop tard dans la mesure où déjà, on a quand même quelques acquaintances avec des matières culturelles ou pas à 18 ans. Alors après, est-ce que ça peut être aussi on revoit beaucoup cette expression de GPS de la culture pour essayer de découvrir d'autres expressions culturelles, artistiques, pourquoi pas. Oui. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment attendre. Pour moi, le vrai moment intéressant, ça va être l'étape d'après. Une fois que pendant un an, on a distribué 500 euros à une personne de 18 ans, quels sont ses choix ensuite à 19 ans? C'est-à-dire que s'il est subventionné pendant un an à hauteur de 500 euros pour pouvoir découvrir tout un tas, encore une fois, d'expressions artistiques, jeux vidéo, culturels, qu'est-ce qu'il en retient une fois ses 18 ans et 365 jours passés? Et ça sera intéressant de voir s'il continue dans ces mêmes nouvelles découvertes culturelles ou pas.
Eliott Lepers.
Moi, je pense que c'est assez symbolique d'une vision très caricaturale de la jeunesse par le gouvernement. On a l'impression que d'un côté, on leur donne 500 euros et de l'autre côté, on leur remet un service civique obligatoire. On est un peu dans la caricature.
C'est un peu la chanson de Drake, God's Plan, on vous distribue comme ça, on l'écoutera tout à l'heure, mais c'est un peu autre chose.
Il y a un peu de ça, quoi, pour moi. Et puis derrière, il y a une forme d'hypocrisie quand on voit le niveau et la situation pour les industries culturelles, et notamment les petits théâtres et les petits éditeurs et toute l'activité économique de la culture qui aujourd'hui pâtit notamment des mesures du gouvernement. On se demande un peu quelle est la priorité et où est le symbole, faire la part des choses entre la politique et le symbolique.
Voilà. Après, ça avait été une annonce forte d'Emmanuel Macron pendant sa campagne et notamment un des piliers de son programme culturel. Donc
une des seules propositions.
Absolument.
On sait que sa ministre elle-même ne croyait pas trop, mais vous avez complètement raison de dire qu'en fait, il est évident qu'Amazon, Netflix et Deezer ne viendront pas si en fait ce pass ne sert pas de rampe. Après, ils peuvent très bien se dire, on vient gratuitement, mais on s'invite dans la vie quotidienne d'un jeune de 18 ans, en pariant sur le fait qu'à 19, il paiera.
Mais évidemment, en partant de l'idée qu'à 18 ans, ils ne connaissent pas encore Netflix et Amazon et
mais
Spotify.
Mais d'autre part, la vraie question, c'est est-ce que ces acteurs-là, ils auront besoin du Pass Culture? Ils vont se dire, truc-là est finalement gratuit, est-ce qu'on en a besoin?
Alors, en attendant le Pass Culture, on peut toujours aller voir des films au cinéma pour 4 euros. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 4 juillet. C'est évidemment la fête du cinéma du 1er au 4 juillet. En 2017, 3,2 millions de Français avaient profité de ce tarif réduit. On espère que les chiffres seront plus élevés cette année avec, dès ce soir, une projection en plein air sur les Champs-Élysées. Le film choisi, c'est Les Visiteurs. C'est une opération pour rendre et communiquer sur la fête du cinéma, la fête du cinéma partout en France jusqu'au 4 juillet. Je rappelle qu'elle avait été créée en 1985 par Jack Lang. Et puis pour terminer sur l'actualité, Zoé Sfez, un mot sur la crise au journal Les Inrecuptibles.
Effectivement, le journal qui donc avait connu 1,5 million de pertes en 2017 et qui avait annoncé dès la fin de l'année 2017 qu'une négociation serait ouverte en 2018 sur une rupture conventionnelle collective pour certains des 70 salariés du magazine. Or, on est quasiment certain aujourd'hui qu'il y a près de 27 personnes qui ont décidé de prendre ce plan. C'est plus que ce plan qui avait été prévu pour 25 personnes. Ça pourrait passer à 30. Et parmi eux, beaucoup de grands noms du magazine qui partiraient. Ne subsisterait que Jean-Marc Lalanne et Nelly Caprellion parmi les historiques. Et surtout, un service musique qui serait réduit à une personne, ce qui est quand même... ce qui bouleverse un petit peu l'identité de ce magazine qui donc continue d'avoir des pertes en dépit
de... Un magazine qui parle surtout d'électro et de rap alors qu'il s'appelle Les Inrocs. Ouais. Un journal qui se cherche aussi et cherche son identité.
Un journal qui a changé de modèle plusieurs fois, qui au moment où Mathieu Pigas l'a repris, avait décidé de devenir un magazine d'information générale, qui avait embauché Audrey Pulvar à la tête de sa rédaction, des enquêteurs, qui avait sorti notamment l'affaire Tron, puis qui finalement qui s'était rendu compte que c'était pas son ADN et que ça ne fonctionnait pas, qui était revenu à une formule de magazine culturel. Qui a eu quand même
de prescription culturelle.
Ouais. Alors avec cette vraie question, est-ce qu'on en a toujours besoin? Est-ce que c'est de ce type de magazine dont on a besoin?
Et qui a eu des difficultés, qui a un peu raté le passage au numérique, même s'il est présent sur le numérique, il n'a pas peut-être su évoluer dans cette direction en étant tout à fait bimédia, etc. Donc un journal dont on espère qu'il saura trouver sa voie,
Marjorie Payon. Il devrait être intégré au Pass Culture sur abonnement.
Voilà.
Merveilleuse idée de Marjorie Payon. Bon, effectivement, entre-temps est passée par là la fameuse une de Bertrand Cantat qui a fait beaucoup de mal à la fois au sein de la rédaction et au niveau des abonnés, puisque les abonnés restent le cœur quand même des lecteurs des Inrocs, qui il y a eu une grosse vague de désabonnements après la deuxième une.
Il faut voir aussi qu'il y a une crise à l'Express, il y a une crise à l'Obs, il y a une crise à Marianne, donc les hebdos ont des difficultés. Donc
une crise dans la presse écrite, vraiment,
Frédéric. Mais une crise en particulier dans les hebdos, ce qui est moins vrai pour, par exemple, Le Monde ou Le Figaro. Dans un instant, on parle de la voiture autonome et sans conducteur dans Soft Power. Mais juste avant, pour clore cette séquence d'actualité, l'album de la semaine est du moins pour nous celui de Florence and the Machine, I as Hope, album rendu public cette semaine, même si on en connaissait déjà quelques titres sortis en single dans Hunger. Et autre bonne nouvelle pour les fans, cela vient d'être annoncé, un concert en France, à Bercy, à Accor Hotel Arena, ce sera le dimanche 24 mars 2019. Il y a un petit peu le temps, mais ça arrive. Les ventes seront ouvertes dès le 6 juillet, donc presque une année en avance. Florence and the Machine sur France Culture. Vous écoutez Soft Power sur France Culture en direct, il est 19h25.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Ce soir, nous parlons de la voiture autonome, de la voiture sans conducteur, voiture électrique, parfois voiture connectée d'autrefois. Tout ça avec Emmanuel Egloff, journaliste en charge du secteur automobile au Figaro Économie, Elliot Lepers, chroniqueur de cette émission, ainsi que Marjorie Paillon, journaliste à France 24, et Zoé Sfez. On est ensemble sur toute une série de sujets. On va parler des régulations, on va parler d'éthique des algorithmes, on va parler des usages de cette voiture sans conducteur, de ce qu'elle apportera à la ville, à la Smart City, des différents modèles tels ça, Google, etc., la place des GAFA. Que sont les Français, que font les Français dans ce secteur? Et aussi bien sûr des questions de sécurité, de régulation, de permis, d'autorisation, de vitesse. Alors on commence peut-être avec vous Emmanuel Egloff, on a cité plusieurs mots, voiture autonome, voiture sans conducteur, voiture connectée, on confond parfois avec des formes de voitures électriques. En termes de définition, comment vous voyez le sujet? De quoi parle-t-on?
Alors, la voiture autonome, en fait, c'est deux choses, ça sera deux choses. D'abord, la voiture ordinaire à laquelle on va adjoindre les fonctions autonomes. C'est-à-dire que vous êtes sur l'autoroute, vous appuyez sur un bouton et tant que vous avez appuyé sur le bouton, la voiture est autonome et elle se déplace toute seule, elle peut changer de fil, elle peut voilà. Et vous sortez de l'autoroute, vous réappuyez sur le bouton, vous reprenez la voiture en main et vous la conduisez comme une voiture ordinaire. Ça, c'est des choses qui vont arriver assez vite, sur lesquelles on sait, on peut à peu près timer la chose.
C'est-à-dire quoi, 3 ans, 5 ans, 10 ans?
Sans doute moins de 3 ans. Moins de 3 ans, il y a la plupart des constructeurs pensent que ça arrivera entre 2019 et 2021. Ensuite, il y a la voiture sans conducteur.
Quasiment sans volant, sans voiture.
Sans volant, sans pédale.
Sans boîtier de vitesse.
Où on ne sera même pas forcément en face de la route.
Oui, on peut avoir 4 sièges autour, un salon.
Tout à fait. Et là, on passe dans un niveau de complexité largement supérieur, parce qu'il faut que la voiture soit autonome dans toutes les circonstances.
Y compris pour se garer dans un parking souterrain.
Ah, mais pour se garer, c'est facile, ça on peut déjà le faire.
Non, mais dans un parking souterrain où il n'y a même pas accès au Wi-Fi.
C'est facile, là c'est possible. Mais la difficulté, c'est surtout que la voiture va devoir s'adapter à des gens qui ne respectent pas les règles. C'est-à-dire que la grande ville, avec des cyclistes, des scooters, des piétons qui passent, qui respectent pas forcément les choses, là, il va falloir que la voiture soit suffisamment intelligente pour pouvoir s'adapter à ça. Et ça va prendre un certain temps.
Voiture autonome sans conducteur, connectée, comment vous voyez ces différents mots?
Alors, connectée,
d'une certaine manière, elle est déjà connectée, la voiture.
Non, elles ne sont pas encore toutes connectées. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture haut de gamme aujourd'hui, elle sera forcément connectée. Même la plupart des voitures le sont. Mais aujourd'hui, en France, il y a 30 millions de voitures qui circulent. Elles sont loin d'être toutes connectées. Et le niveau de connexion va varier. Mais ce qu'il faut, une voiture autonome, elle doit pouvoir être autonome et en sécurité sans connexion. Sans être connecté. Parce que on voit bien tous que de temps en temps, avec nos téléphones portables, la connexion elle saute. Si à chaque fois que la connexion saute, la voiture se prend un mur, ça va poser un problème.
Sûr, oui.
Donc il faut qu'elle soit.
Dans les zones blanches, elle se débrouille toute seule.
Par contre, l'avantage d'avoir une voiture réellement connectée, c'est que ça permettra d'être beaucoup plus efficace, de communiquer avec les infrastructures urbaines, ce qui permettra de savoir que dans 3 rues, il y a eu un accident alors que la voiture ne peut physiquement pas le voir. Ça sera beaucoup plus efficace. Pour le parking que vous évoquiez tout à l'heure, aujourd'hui, une voiture, elle est capable de descendre et de faire tous les 10 étages du parking pour trouver une place. Si, en arrivant en haut du parking...
Elle sait qu'il faut aller au 6e sous-sol,
voilà,
elle va direct.
Exactement.
Marjorie Paillon, sur ces définitions et cette question de prospective, comment vous voyez le sujet?
Alors, d'abord, ça ouvre un véritable marché qui est celui aujourd'hui de la mobilité. On va au-delà même de la question de la voiture ou du véhicule en tant que tel, on parle vraiment d'un écosystème de mobilité. Et cet écosystème de mobilité, aujourd'hui, il se vit... Certes, partagé d'un côté, c'est vraiment ce qu'on va essayer de comprendre sur les transports multimodaux. Comment est-ce qu'à un moment donné, je peux justement d'un côté utiliser une voiture, à un moment donné utiliser un vélo, puis un véhicule de transport public. Donc c'est vraiment cette mobilité qui est partagée, qui est multimodale. Elle est autonome, ce secteur de la mobilité, ce grand marché-là, connecté, on vient de le dire justement il y a quelques instants, électrique s'il en est, puisqu'on essaie aussi de trouver des solutions justement avec des énergies renouvelables pour faire, et encore une fois, on se dit bien que ce véhicule-là, c'est la porte d'entrée des fameux smart cities, des villes intelligentes, des villes connectées et des villes beaucoup plus green. Donc il faut aussi qu'il soit électrique, il faut qu'il soit à la demande, cette mobilité, donc ça va être un peu comme ce qu'on voit dans d'autres secteurs, le fameux bring your own device, c'est un peu bring your own vehicle cette fois-ci. Donc à quel moment
vous
j'ai besoin d'un véhicule,
nous le faire en français, cet écosystème apporter, que vous aimez beaucoup.
C'est un peu McDo, c'est un peu venez comme vous êtes. À quel moment vous avez besoin de quel véhicule pour être le plus rapide, pour être le plus rapidement sur place, pour réduire votre temps de trajet, ou si vous avez besoin d'allonger votre temps de trajet parce que vous n'avez pas fini ce que vous étiez en train de faire au bureau, puisqu'on peut se dire que justement avec le véhicule totalement autonome, alors ça c'est un véhicule autonome de niveau 5, auquel vous ne touchez même pas, il n'y a pas de pédale, il n'y a pas de volant. Dans ces cas-là, vous pouvez l'utiliser comme une substitution de bureau, et puis forcément cette mobilité, elle est évidemment smart, elle est évidemment intelligente, puisqu'elle est en connexion avec toutes les autres composantes de la ville. Donc voilà, c'est un vrai écosystème qui est en train de se recomposer et sur lequel il va falloir quand même donner du temps au temps, si j'ose dire, parce que, comme on le disait tout à l'heure, pour l'instant, c'est une ville, pas forcément idiote, mais en tout cas une ville en l'état qui va devoir pouvoir persister avec des véhicules autonomes et connectés qui commencent à entrer dans ces villes-là. Donc on n'est pas encore à l'état, sauf sur les projets, notamment beaucoup dans les Émirats qui sont en train de sortir from scratch avec des villes connectées et intelligentes qui intègrent directement cette dimension du véhicule
from scratch,
autonome
c'est
et sans conducteur.
C'est du désert en fait.
Exactement.
Ça veut dire,
oui, c'est un peu ça, notamment dans les Émirats. À moins d'avoir directement intégré cette composante du véhicule autonome et connecté dès le départ, dès même la conception de cette ville intelligente, pour l'instant, dans nos villes à nous, Paris, New York, Berlin, Londres, il faut avoir ce temps d'adaptation où les deux modèles vont encore devoir travailler ensemble.
Ce qui est quand même très intéressant dans tout ça, c'est que c'est évidemment une espèce de révolution qui est portée d'abord et avant tout à un rythme effréné par des industriels et qu'on est très très loin. Donc effectivement, vous le redisez, en fait, il y a 4 stades reconnus par le ministère des Transports américain. Donc la voiture que vous parlez, c'est celui de niveau 4, la voiture autonome, ou niveau 5. Enfin, niveau 5, si on part du principe que celle qu'on a aujourd'hui, c'est le niveau 0 de la connexion, si vous aviez une vieille Volvo.
C'est pas année des femmes, année 0, comme le disait le MLF,
oh là là.
C'est voiture. c'est l'année 0, on repart à 0.
Exactement, la temporalité, voilà, le niveau 4, il faut quand même se dire qu'on n'y est pas du tout à plein de niveaux, ni en termes de sécurité, ni en termes de sécurité du matériel, ni en termes de coexistence. On y est presque, il y a des gens qui travaillent dessus, et c'est évidemment un mouvement et une frénésie qui est portée par des industriels, avec énormément de questions qui continuent de se poser, la capacité des États à réagir, à ordonnancer, la capacité de la recherche à exister en dehors de celle qui est financée par les industriels, donc il y a encore plein de questions qui sont en suspens et qui sont loin d'être réglées.
Question aussi en termes, on parlait des smart cities, c'est-à-dire la ville de demain, la ville connectée, la ville durable, et de l'Île de Perse aussi tout un tas de limites d'une certaine manière de ces modèles de développement.
Oui, on peut aussi se dire qu'il y a une baisse de l'utilisation des voitures, notamment chez les plus jeunes générations, de la possession de voitures par ailleurs. Donc là, c'est à la fois une riposte pour les industriels pour se dire on va continuer à vendre des voitures, à fabriquer des voitures, et en même temps, c'est intéressant dans la mesure où ça permet de mutualiser, ça permet de créer des voitures sur leur service et sur leur usage uniquement et qu'on ne va pas forcément posséder. Donc on va avoir des abonnements et puis on utilisera des voitures qui nous conduiront là où on veut. Mais moi, je pense que la question qui doit se poser derrière, c'est aussi les mobilités collectives tout simplement. Est-ce qu'on a véritablement est-ce que c'est les voitures connectées ou autonomes qu'on doit créer ou plutôt les transports collectifs autonomes? Et dans ce cas-là, on se pose la question de quelle ville on veut construire. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt de sortir de la mobilité individuelle et motorisée dans les villes. On n'y est pas aujourd'hui.
Alors sur ce point, justement, Emmanuel Egloff, vous êtes journaliste en charge du secteur automobile au Figaro Économie. On peut attendre des révolutions en termes des usages.
Alors,
Et des usages qui vont être à la fois dans la possession, dans le partage, dans l'abonnement et peut-être aussi vers un système de transport en commun grâce à des véhicules autonomes.
Oui, tout à fait. C'est le y a pas d'un côté les systèmes de transport en commun et de l'autre les voitures autonomes. Il peut effectivement, avec la connectivité, y avoir un lien entre les deux. Aujourd'hui, il y a Renault et Transdev, donc un opérateur de transport en commun qui est en train de faire un test grandeur nature à Rouen. Ça vient d'être lancé la semaine dernière. Ça sera ouvert au public en septembre. Le but, c'est d'aller au bout dans les zones presque rurales, de mettre à disposition à la demande des voitures autonomes, des Zoé électriques connectées et autonomes, pour que là où il ne peut pas y avoir de transport en commun parce que le coût est trop élevé, eh bien on commande une voiture autonome, elle vient nous chercher et elle nous amène au dernier arrêt tram, et il y a un vrai contrôle du centre de transport en commun de la ville de Rouen.
Comment ça peut être testé en termes de régulation en France à Rouen?
Parce qu'on a ouvert le droit à l'expérimentation du véhicule autonome en France, et d'ailleurs en 2021 il y aura une expérimentation qui sera menée dans plusieurs villes et sur plusieurs routes ouvertes, donc des routes sur lesquelles vous et moi pouvez circuler, enfin moi beaucoup moins en volant, mais sur lesquelles nous pouvons tous circuler à un moment donné. Et donc du coup cette expérimentation, ça y est, elle arrive. C'est notamment une des grandes promesses d'Emmanuel Macron il y a quelques mois quand il révélait le plan IA.
Intelligence artificielle, ouais.
Absolument. Et le premier secteur qui est dont on ouvre les portes de l'expérimentation, c'est justement celui des voitures autonomes.
Mais ça veut dire, Emmanuel Legloff, que nous sommes prêts, c'est-à-dire que les voitures elles peuvent circuler.
Oui, oui, oui. Moi, j'ai testé. Hein. J'étais à Rouen et j'ai été dans la zone autonome faire une boucle. Elle est capable de voir les piétons, les vélos. Donc, ça fonctionne. Après, ce n'est pas prêt parce que la voiture, elle est trop rêche. Elle accélère un peu trop vite. Elle ralentit un peu trop vite. Elle est trop prudente. Mais là, c'est une question.
Quelle est sa vitesse? Elle respecte le 80 km à l'heure à partir d'aujourd'hui.
C'est une voiture qui respecte à la lettre le
tout. Donc il n'y a plus de risque de PV et au fond aussi moins d'accidents potentiels en tout cas.
Alors c'est quand même un peu le problème, parce que le problème c'est que théoriquement c'est ce que nous vend, donc quand même le lobby qui se sont constitués en lobby, les Américains, leur nom de ces industriels c'est Self-Driving Coalition for Safer Streets, donc c'est le nom même de leur lobby, c'est la coalition des produits autonomes pour des routes plus sûres. Alors il y a plein de questions qui se posent et qui sont pas à trancher, j'espère qu'on va aller dans ce sens là. Il y a déjà la question de la coexistence entre des voitures qui sont intelligentes selon une conduite parfaite, alors que le monde entier continue d'être conduit par des humains. Et donc là, il y a vraiment une opposition.
Avec des conduites imparfaites.
Avec des conduites tout à fait imparfaites et des logiques, et c'est très intéressant. Il y a plusieurs, on vous mettra les références, liens de recherches qui ont été faites sur des conduites de voitures autonomes qui sont tout à fait contre-intuitives. Coller des gros camions parce que c'est plus sympathique, c'est théoriquement plus sûr, sauf que nous, on sait que le routier, il peut faire des choix complètement pas du tout, disons, cohérents avec ce que... Donc la question de l'intelligence, la voiture dite intelligente, elle a une intelligence qui lui est propre. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle coexiste avec des intelligences humaines qui ne sont pas dans la même logique? Et évidemment, tout dépend, puisqu'on est beaucoup dans du deep learning, de ce qu'on lui fait apprendre. C'est un des enjeux.
Emmanuel Legloff, sur cette question?
De toute façon, il est clair que les tests qui ont été faits aux États-Unis, notamment la Google Car sur laquelle il y a le plus de kilomètres faits...
Oui, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des voitures autonomes qui traversent nuit et jour non-stop les États-Unis d'est en ouest.
Il y a eu deux cas mortels, un cas mortel.
Il y a quelques États qui ont ouvert l'expérimentation aux États-Unis. N'oubliez pas que les États-Unis, c'est quand même un système fédéral, donc c'est chaque État qui choisit d'ouvrir ses routes ou pas aux voitures autonomes.
Oui, tout à fait. Mais en fait, donc, la Google Car, il y a eu un certain nombre d'accidents. L'immense majorité, la voiture n'est pas responsable, c'est très clair. Par contre, elle a une conduite tellement prudente que les autres conducteurs ne s'attendent pas à cette conduite prudente et lui rentrent dedans. Donc c'est sûr que la cohabitation peut devenir un problème. Par contre, la finalité qui consiste à dire qu'il y a 90% des accidents qui sont dus à des erreurs humaines, ça c'est incontestable. Donc si on passe à conduite autonome pour tout le monde, il y aura un gain humain qui sera énorme.
On parle de 1 million de victimes sauvées chaque année.
Oui, mais on sait, vous l'avez dit, qu'il y a quand même deux problèmes majeurs, on va en reparler en deuxième partie. Il y a le problème de la qualité des capteurs, qui est quand même un gros problème, parce qu'ils sont quand même pas tous assez prêts. Ça, même les industriels le reconnaissent, je crois. C'est-à-dire les capteurs qui sont capables, qui vont être en gros la base de cette logique, avec la question de la détection, ils sont de bonne qualité. Mais voilà. Et évidemment, la question de la cybercriminalité, mais ça, on va en parler après.
Le capteur, pour le coup, je pense que c'est à peu près prêt, mais surtout l'intelligence de la voiture qui va interpréter
ce que
voit le capteur. C'est, il y a eu un accident, pour le coup, avec une Uber autonome.
Mortelle, oui.
Absolument, aux États-Unis, dans Nevada.
Et en Arizona, au mois de mars dernier.
Et Nevada, Arizona, c'est pas très loin.
C'est pas le même état, en l'occurrence.
Non, et puis oui, c'est un est au sud et l'autre est plus au nord. Voilà.
Le problème, a priori, de ce qu'on a compris, c'est qu'effectivement, les capteurs ont vu la personne qui traversait et l'intelligence de la voiture a considéré que c'était un faux positif. Ouais. Et donc, effectivement, il n'y avait pas une personne qui traversait. Et donc, la voiture lui est rentrée.
Ouais, parce qu'alors, on a visiblement un élément en plus, justement, qui vient d'être rendu public sur cet incident Uber à Tempe, en Arizona. C'est qu'en l'occurrence, ça s'est révélé par The Verge il y a quelques jours, selon le rapport de la police de Tempe, la conductrice qui, justement, était en train de faire les tests sur ce
Uber. Elle jouait aux jeux vidéo.
Pas du tout. Elle était en train de regarder du contenu en streaming sur Hulu, sur la plateforme Hulu. Elle était en train de regarder The Voice. Et on a pu déterminer que ça faisait 42 minutes qu'elle avait lancé un épisode de The Voice pour justement essayer de voir si l'inattention du coup qui pouvait être déportée non plus sur la route et non plus sur le test qu'elle était en train d'effectuer mais sur un contenu qui pouvait être en train de la distraire la distrayait vraiment, la preuve c'est le cas, et en l'occurrence elle n'a pas réussi à reprendre à temps les commandes de la voiture parce qu'elle était distraite par un contenu.
Alors pour terminer sur cette première partie d'une certaine manière, on a évoqué les évolutions vers un système de transport en commun, quels sont les secteurs affectés, je pense en particulier aux taxis, aux camionneurs, aux chauffeurs de bus, etc. Ce qu'on appelle aussi le platooning, c'est un anglicisme, mais au fond, c'est tout simplement la possibilité pour les voitures de fonctionner en convoi ou en peloton, et qui est apparemment une solution plus facile pour les véhicules autonomes.
Pour les camions surtout. C'est-à-dire qu'effectivement, pour faire traverser des grandes distances, il est possible de mettre un conducteur dans un premier camion et d'avoir toute une suite de camions qui le suivent d'une manière autonome. Mais c'est sûr.
Donc
que
c'est un système un peu mixte.
Absolument, absolument. De toute façon, c'est comme le test à Rouen, où aujourd'hui, il y a une personne qui est dans le central de commandement du réseau de transport urbain de Rouen, et ils peuvent monitorer, enfin à diriger, à faire accélérer, non pas faire accélérer, mais faire baisser la vitesse, ou bientôt arrêter totalement la voiture, parce qu'ils verront ce que vaut la voiture, avec les caméras de la voiture, et donc ils peuvent s'adapter à distance sur ce que fait le véhicule.
Quel type de professions sont menacées? C'est toujours disrupteur, mot que Marjorie Payon aime bien, la disruption.
Évidemment.
Au fond de...
Je rappelle que c'est rentré dans le dictionnaire.
Absolument. Certains disent, il n'y a plus de chauffeurs de taxi, il n'y a plus de camionneurs, il n'y a plus de chauffeurs de bus dans quelques décennies, quelques années, quelques siècles. Quelle est l'échelle du temps auquel il faut penser pour tout ça?
A priori, quand même plusieurs décennies pour enlever carrément quelqu'un qui sera en contrôle, qui pourra surveiller le véhicule autonome.
Marjorie Payon.
Juste sur des prévisions marché, pour vous donner un ordre d'idée, on estime, en tout cas le cabinet IHS Market estime que 33 millions de véhicules autonomes seront vendus par an dans le monde en 2040. Ça représente 26% des ventes automobiles mondiales. En tête,
bon,
les États-Unis.
2040, c'est pas tout à fait pour
non,
demain.
Non, c'est pour ça.
Mais...
En tête, les États-Unis, ensuite la Chine et seulement après l'Europe.
Eliott Lepers, qui sera retraité au moment où les voitures autonomes rentreront en service.
Je vais peut-être enfin mon bac, mais non, mais vous traversez les États-Unis d'est en ouest avec un camion, 75% du coût, c'est autour de 5 000 $, 75% du coût, c'est le temps humain. Donc effectivement, à partir du moment où on a ces éléments-là, les sociétés de transport ont tout intérêt à automatiser. Ça, c'est le vrai problème. Et puis Uber a proposé à Tesla d'acheter l'ensemble de sa flotte de véhicules autonomes pour remplacer l'ensemble de ses conducteurs. Donc on y arrive.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 19h43 en direct. Nous sommes avec Emmanuel Egloff, journaliste en charge du secteur automobile au Figaro Économie, Eliott Lepers, chroniqueur dans cette émission, Marjorie Payon, journaliste à France 24, Zoé Sfès de France Culture. On évoque ce soir la voiture sans conducteur, la voiture autonome, qui était à la fois connectée, qui sera de plus en plus connectée, au point même d'être peut-être capable de conduire et de rouler toute seule. J'aimerais qu'on s'intéresse un tout petit peu à la question de la valeur et des modèles économiques. Et je commence avec vous, Emmanuel Egloff. Il y a toute une bataille, évidemment, extrêmement importante et aussi mondiale, entre d'une part ce qu'on appelle des constructeurs, je pense à Peugeot, à Renault, à Citroën pour les Français, mais beaucoup d'autres, mais aussi des équipementiers qui déjà font une large partie de la voiture, du GPS jusqu'au poste de radio, mais aussi les freins, les sièges, etc. On dit que combien de pourcentage d'une voiture est faite par un équipementier?
Aujourd'hui, 70% de la valeur ajoutée d'une voiture vient des équipementiers.
Alors les équipementiers, c'est là où vont rentrer éventuellement Telsa, peut-être, si ce n'est pas ses propres voitures. Google, si c'est un système un peu de type Android, c'est-à-dire que Google fournit le système, le vend aux constructeurs qui ensuite l'utilisent dans chaque véhicule. Comment est-ce que vous voyez cette grande évolution qui risque de se passer?
Alors, je ne sais pas si j'ai une vision très précise, mais c'est clair que cette évolution de savoir comment va évoluer la valeur ajoutée d'une voiture dans le futur, c'est bien là que vont se battre tous ces acteurs, avec effectivement les acteurs traditionnels du métier de l'automobile, c'est-à-dire les constructeurs et les équipementiers, qui tous deux investissent beaucoup d'argent dans la conduite autonome et comptent bien en profiter aussi, et des acteurs nouveaux, notamment
les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon.
Absolument. Ouais. Baidu, en Chine, qui met beaucoup d'argent dans le domaine aussi, qui en plus ont accès à des modes de financement qui sont beaucoup plus élevés, ce qui leur permet de dépenser plus d'argent que les constructeurs qui, eux, doivent gagner de l'argent en vendant les voitures traditionnelles pour l'investir dans ces nouveaux modes.
Qui en même temps les rend vulnérables.
Absolument.
Donc c'est un peu un piège.
Absolument, tout à fait. Et donc, ils doivent regarder les évolutions de comportement, savoir comment la voiture autonome peut faire changer l'envie de posséder une voiture vers l'envie juste d'utiliser un mode de transport qu'on commande, qui va se déplacer tout seul. Comment on va se retrouver pour pouvoir gagner de l'argent dans ce domaine-là. Et effectivement, on voit bien que les Uber, Tesla perdent de l'argent aujourd'hui, beaucoup d'argent, investissent beaucoup d'argent et en perdent.
D'une certaine manière, c'est un peu, en tout cas Google travaille désormais avec un certain nombre de constructeurs, je pense à Jaguar, à Chrysler, dans une logique qu'on pourrait qualifier un peu de modèle Android, c'est-à-dire au fond, ils développent un système, ce qu'ils avaient fait avec LTC pour Android, et ensuite, ils ne cherchent pas à créer des voitures, ils ne cherchent pas à construire des voitures, juste à placer leur système Android, qui va être en l'occurrence le système Google pour véhicules autonomes, dans le maximum de constructeurs pour que ça devienne d'une certaine manière la norme du secteur. C'est un peu ça la stratégie Google.
Exactement, tout à fait.
Allez-y, Marjorie.
Oui, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Google fait ce qu'il a toujours su faire, proposer un système d'exploitation à des constructeurs automobiles, et à partir de là, justement, l'ouvrir au plus grand nombre. Là où ça va être intéressant, et ça fait longtemps qu'on travaille sur les rumeurs d'Apple Car, par contre, qui a pris plusieurs noms différents, est-ce qu'Apple va, du coup, avoir la même stratégie qu'elle a eu jusqu'à présent, posséder son propre système d'exploitation pour sa propre voiture et surtout ne le donner à personne. Ça, c'est encore,
et vendre des
encore
voitures.
Une fois les deux grandes oppositions des modèles ouverts Android versus les modèles fermés Apple.
Emmanuel,
vendre des voitures en les faisant fabriquer par des constructeurs qui risquent de voir leur marque disparaître et de se transformer juste en fabricant de métal avec la marque Apple derrière.
Zoé,
et
petit pas de côté, juste on en vient évidemment avec ces questions-là, avec l'énorme truc qu'on n'a pas abordé depuis le début, c'est évidemment la question de la donnée qui va être, je veux dire, le cœur de cette affaire. C'est-à-dire que on génère des données comme on génère aujourd'hui des avions, sauf qu'on sera et il faudra la question de la boîte noire. Est-ce qu'il faut des boîtes noires dans les voitures autonomes? Et si oui, est-ce qu'elles sont sur un cloud? Qui a ce cloud? Est-ce que ces données sont accessibles à tout le monde, à vos assureurs, à la police? Où est-ce qu'on les garde? Comment est-ce qu'on fait pour... évidemment, on connaît l'enjeu énergétique de ce qui se passe avec les données aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des questions énormes, sans parler même des questions de piratage qu'on abordera dans 10 minutes, mais qui sont, elles aussi, évidemment, cruciales.
Et de Perse?
Non, exactement. Moi, je voulais réagir sur cette question de la sécurité et puis aussi de savoir, est-ce que finalement, on n'aurait pas plutôt intérêt à développer l'innovation ouverte sur ces sujets-là, parce que on est dans un questionnement où l'interopérabilité des différents algorithmes, de différentes intelligences artificielles va être cruciale. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir une voiture de Google à côté d'une voiture de Apple à côté d'une voiture de Volvo?
Est-ce qu'elles seront se parler,
voilà.
Communiquer?
Est-ce qu'elles auront les mêmes règles ou pas? Donc la question d'avoir accès à ces algorithmes et de comprendre quelles sont les décisions qui sont faites, quelle est l'éthique.
Une question sur la place des Français dans tout ça, parce que quand on regarde, une des clés, ça va être non seulement, comme vous le disiez, disiez très bien, Zoé, la question des data, mais aussi la question du software. Je pense par exemple aux cartes routières. On sait aujourd'hui que le seul qui a réussi à vraiment avoir un système qui fonctionne à peu près bien partout dans le monde, c'est Google, avec la Google Maps associée avec Waze, qui est, comme on le sait, une start-up israélienne qui a été rachetée par Google. Apple, qui est pourtant pas un petit et qui est un géant du secteur, a peu réussi sur ses cartes et a dû d'ailleurs se rabattre finalement, y compris pour ses smartphones, sur les systèmes de Google Maps. Où sont les Français là-dedans? Si on doit utiliser Google Maps, Waze, si on doit avoir le système d'exploitation Android, entre, je ne sais pas comment il s'appellera, mais de Google, on fait quoi, Emmanuel Egloff?
Alors, les Français sont présents sur la voiture autonome, très clairement. Moi, j'ai déjà été dans des voitures autonomes, voir comment ça fonctionnait, de chez Renault, de chez PSA, donc Peugeot Citroën. Il y a des sommes importantes qui sont dépensées, mais c'est vrai que derrière, ils font des arbitrages, ils ne peuvent pas être présents partout.
Donc ils ne vont pas se mettre à faire les cartes routières?
Non. Alors, non, clairement.
Parce qu'on dit aujourd'hui que, on dit aujourd'hui que même si on avait des millions, voire des milliards, on ne peut pas recréer un système aussi puissant que Google Maps, parce qu'on est trop tard, c'est trop tard. Il faudrait 10 années pour y arriver.
Surtout, ils considèrent que c'est pas forcément
là où sera la valeur.
Oui, exactement. La question, c'est bien là où va être la valeur. Et donc, plutôt dans le cerveau du conducteur virtuel que dans une carte qui va finalement rester
Marjorie,
un équipement.
Mais Payon. Sinon, en termes de constructeur, on a quand même un constructeur lyonnais qui se dit être leader de la voiture autonome, qui s'appelle Navya, qui est sur le point de s'introduire en bourse. On n'a pas à rougir, honnêtement, de compétiteurs potentiellement américains ou chinois sur le sujet. En tout cas, vraiment, quand on est centré sur l'appareil en soi, le device en soi, le véhicule autonome pur et dur.
Là, on parle, Elliot Lepers, d'algorithmes, système d'exploitation. Il y a aussi une éthique pour tous ces algorithmes.
C'est la clé. On présente souvent l'exemple du tramway. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a deux routes, une route où il y a trois personnes sur le passage piéton et puis l'autre avec une personne. Lequel on tue? Est-ce qu'il faut tuer le conducteur ou est-ce qu'il faut tuer le passager qui est sur le piéton qui est sur le passage piéton?
Est-ce que celui qui a acheté la voiture va accepter que on le tue finalement?
Est-ce qu'on peut payer une assurance plus chère pour avoir le droit d'être préservé par l'algorithme? Donc voilà, il y a cette question d'une sorte de morale tech, comme en parle
Olivier Hertchett qui avait appelé à mettre en place une morale tech. Mais ça, c'est la vraie question. Il y avait eu quand même un article publié dans Nature de chercheur en intelligence artificielle qui s'appelait There's a Blind Spot in AI Research, donc jeu de mots. Il y a un angle mort sur la recherche en intelligence artificielle, c'est cette question de l'éthique. Il y a quand même eu le MIT, la Toulouse School of Economics et des chercheurs du CNRS qui ont travaillé sur un site qui s'appelle Moral Machine, qui réfléchit à ces questions. Mais quand même, il n'y a pas grand monde sur ces questions. Et il y avait un article aussi, de toujours cité par Olivier Hertchett, que je vous conseille de lire sur cette question, qui appelle donc à la mise en place d'une morale tech, qui clairement des gens qui commencent à s'interroger aussi sur le fait qu'on ferait ou pas fausse route avec toute une série d'études qui paraissent en ce moment en sciences cognitives, qui montrent qu'en réalité ce qui s'est passé avec les pilotes d'avion qui ont de moins en moins de maîtrise sur la machine, on voit qu'au bout de 10 ans leur capacité cognitive à faire leur travail s'est complètement écroulée, puisqu'ils sont, leur capacité à reprendre le volant, le reprendre la main est beaucoup plus faible qu'avant, et qu'ils risquent de se passer à peu près la même chose.
En particulier sur l'Airbus A380 par exemple.
Voilà, par exemple, mais pas que.
Qui est bourré de tech et qui sait plus trop.
Et on a des travaux de, par exemple, de Jennifer Logue qui nous dit pourquoi est-ce que la voiture autonome, son rôle ne serait pas plutôt de nous corriger quand on fait des bêtises plutôt que de conduire à notre place et nous demander d'intervenir au dernier moment. À ce moment-là, notre capacité à intervenir en cas de crise, elle est bien plus amoindrie si structurellement le but c'est de la faire conduire elle plutôt que nous.
Emmanuel Egloff.
C'est un peu déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les voitures, il y a des systèmes d'aide à la conduite qui sont là pour maintenir la voiture entre les lignes. Et si le conducteur dévie, il va donner un petit coup de volant toute seule pour le remettre dans la ligne. Il y a un certain nombre d'aides qui sont déjà en place aujourd'hui. Mais la finalité, si on y arrive, de la voiture autonome, c'est bien, contrairement à l'avion, de pouvoir se passer du conducteur dans 100% des cas. Il est évident que le problème éthique est un vrai problème, c'est-à-dire que avant que des États autorisent à commercialiser des voitures réellement totalement autonomes, il aura fallu qu'ils traitent ce problème-là.
Il n'y a que l'Allemagne qui l'a fait pour le moment. Il n'y a que l'Allemagne qui s'est dotée de textes.
Une petite question, justement, ces questions de régulation. Il faudra un permis. Comment ça se passe? Quelles autorisations? Quelle vitesse? Est-ce que Marjorie Payan, Zoé Svez et Lyotte de Père, je pense qu'on a affaire à trois personnes qui n'ont même pas le permis de conduire.
Mais bien, parce qu'on s'en fout, la voiture autonome allait arriver.
Est-ce qu'ils pourront enfin avoir une voiture à eux qui se conduira toute seule?
Personne n'a le permis.
À court terme. À court terme, non. Parce que, bien évidemment, il faudra arriver à la voiture sans conducteur.
Par la voiture qui est juste connectée.
Enfin, non, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est la voiture où on appuie sur un bouton
pour qu'elle soit autonome... Il faudra pouvoir la conduire le reste du temps.
Oui. Absolument.
Donc, quand on sortira des sentiers battus, par exemple.
Et effectivement, ça sera peut-être d'autant plus complexe d'avoir un permis.
Je vois trois personnes qui tout à coup, désespérées. En termes d'autorisation, les États vont avoir du pouvoir sur Google à ce moment-là, parce qu'on va autoriser ou pas ces voitures autonomes. Donc, il va y avoir une législation par les ministères.
Il faut que la législation soit adaptée. La loi PACTE qui est poussée par Bercy aujourd'hui et qui va être discutée à la rentrée prévoit déjà un certain nombre de modifications pour autoriser les tests pour, à plus grande échelle en France. Et il est sûr que la commercialisation des voitures autonomes va nécessiter un vrai changement. Parce qu'aujourd'hui, c'est la convention de Vienne de 68 qui s'applique sur la régulation des routes et n'est pas du tout adaptée à la voiture autonome.
Mais rassurez-nous, Emmanuel Egloff, les voitures autonomes respecteront à partir de ce dimanche la vitesse à 80 km/h sur les routes doubles.
Évidemment, c'est la chose la plus facile à faire pour elles.
C'est une voiture, on les reconnaîtra.
Donc finalement, il n'y a plus de problème. Ce sera les seuls. Il n'y aura plus de problème sur ce sujet. Pour terminer, peut-être, Zoé Svez, la question du cyber. Piratage, si on pirate vos voitures.
Ça, on va en parler évidemment avec mon invité Guillaume Duc qui arrive dans ce studio dans 5 minutes, mais évidemment ça fait partie des questions qui se posent, parce qu'on l'a dit, il y a toutes non seulement ces informations qui sont générées, mais surtout ces capteurs, même si eux font bien leur boulot, il est tout à fait possible, et qu'il a été d'ailleurs prouvé, pour le moment on n'a pas d'exemple, on n'a pas d'exemple aujourd'hui de hacking malveillant de voitures, en revanche on a des chercheurs qui eux-mêmes s'autopiratent pour se montrer que c'est possible et pour donc se montrer qu'ils ne sont pas arrivés
pour
encore.
Pour terminer cette
chance.
Émission, juste avant d'aborder cette question avec vous, Zoé Svez, un mot sur les Chinois dans le plan national Made in China 2025 qui veut faire du pays le plus peuplé au monde le leader mondial de l'intelligence artificielle et de la voiture autonome. On voit désormais qu'ils vont distribuer la 5G, qui est une des techniques, un standard qui va permettre, télécom, qui va permettre de multiplier les objets connectés, de les faire parler beaucoup mieux entre eux et notamment les voitures avec les routes. Avec les feux rouges, etc. Ils ont fait en sorte que désormais à Shenzhen, les routes, les voitures, les routes et les feux de circulation communiquent, s'entendent, se parlent, avec des marques et des entreprises comme Biton, NIO, WM, Speng, Jinzi, je le dis en français, c'est un peu difficile, Leapmotor et d'autres, des sortes de Telsa chinois qui proposent ou mettent au point des modèles de SUV, par exemple électriques, aux capacités de conduite automatique très avancées. Les Chinois sont aussi un leader dans ce secteur, et en plus ils auront leur propre régulation, donc ils peuvent y aller sans trop de soucis, Emmanuel Egloff.
Ah oui, c'est sûr que de toute façon la Chine est le premier marché automobile mondial. Les constructeurs purement chinois ne cessent de gagner des parts de marché depuis 4 ou 5 ans en Chine. Et en plus, ils ont des acteurs de la tech, notamment Baidu. Ils ont Didi, l'équivalent d'Uber, qui est même plus gros.
Celui-là que j'ai essayé de dire en chinois.
Mais ils ont tout à fait l'ambition et les moyens financiers et les moyens technologiques de se développer dans ce domaine-là.
Bien, mais merci infiniment à vous tous d'avoir participé à cette émission. Emmanuel Egloff, journaliste en charge du secteur automobile au Figaro Économie. Idole de Perse qui reste avec nous. Marjorie Payon de France 24 et Zoé Svez. Pour aller plus loin sur les voitures sans conducteur, les voitures autonomes, on vous a mis une série d'articles, de références, d'ouvrages, tout ça sur la page de Soft Power sur le site de France Culture. Soft Power, ça continue dans un instant. Seconde partie de l'émission avec à 20h10 le débat, le numérique et politique. Le débat de ce soir sera consacré aux entreprises.
entrepreneurs. Demain, tous entrepreneurs, point d'interrogation, posera la question. Et nous en débattrons ce soir avec Elliot Lepers qui reste donc avec nous et Alice Zaguri, le PDG, la PDG de The Family, une société de développement de start-up qui n'est ni un incubateur, ni un investisseur, ni un accélérateur, mais un peu tout ça à la fois quand même. À 20h, Zoé Sfès, votre invité est donc Guillaume Duc, maître de conférence à Télécom Paritech.
Sur une chaire qui s'appelle Voitures connectées et cybercriminalité, on va parler évidemment de ces enjeux avec lui.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Un podcast que vous pouvez d'ailleurs écouter dans votre voiture autonome. Tout ça à suivre après Les plans de Dieu de Drake sur France Culture.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish.
À l'instant, en direct, précisément à 20h sur France Culture, God's Plan, titre extrait du 5e album de Drake, Scorpion, disponible depuis ce vendredi, un album record avec plus de 10 millions d'écoutes chaque heure, 10 millions d'écoutes par heure, rien que sur Spotify. Il s'agit d'un double disque, l'un plutôt R&B et l'autre plutôt rap, qui comporte plusieurs invités et collaborations de marques. Le plus étonnant étant bien sûr Michael Jackson. Drake n'a pas ressuscité le King of Pop, mais il aurait mis la main sur un enregistrement inédit, il l'aurait intégré, utilisé pour créer le morceau en question. À noter aussi le succès de la vidéo de ce titre, God's Plan, 675 millions sur YouTube et 856 millions sur Spotify, où Drake distribue $1 million aux habitants d'un quartier pauvre de Miami, suscitant l'admiration et la critique. France Culture, 20h.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Guillaume Duc.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec nous parce que vous êtes enseignant-chercheur en électronique et vous êtes spécialiste des systèmes embarqués et que vous êtes l'un des co-titulaires d'une chaire qui a été, qui a émergé, qui a été créée par des acteurs divers et variés, académiques et industriels. Est-ce que vous pouvez m'expliquer depuis quand elle existe, qui est à l'œuvre dans cette chaire et pourquoi elle a été créée?
Donc, il s'agit d'une chaire d'enseignement et de recherche signée en mars 2017 et officiellement inaugurée en octobre 2017, qui regroupe 5 partenaires industriels que sont Renault, Thales, Wavestone, Nokia et Valeo, la Fondation Mines-Télécom et Télécom Paritech, organisme de recherche et d'enseignement.
Alors effectivement, où vous êtes enseignant-chercheur. Et cette chaire, elle est intitulée « Voitures connectées ». On n'est pas sur la voiture autonome encore, mais évidemment, on anticipe. « Voitures connectées et cybercriminalité ». Parce que évidemment, on s'est réservé ce sujet pour cette séquence innovation. Mais parmi les enjeux, les défis à relever avec la voiture connectée et a fortiori avec la voiture autonome, il y a cette question de la cybercriminalité et de la sécurité. Est-ce que vous pouvez peut-être m'expliquer justement qu'est-ce qui... D'ores et déjà, quels sont les endroits, les leviers, les points où il faut travailler, à la fois pour la voiture connectée et pour la voiture autonome? Quels sont les points qui posent question concrètement, posent problème même?
Alors, donc, on a vu la voiture connectée, on travaille sur la voiture connectée comme étant un précurseur de la voiture autonome qui viendra ou pas dans les années qui viennent. La voiture connectée, c'est quoi? C'est un véhicule qui va disposer d'un certain nombre de canaux de communication, filaires ou sans fil, avec le monde extérieur. Le monde extérieur, ça peut être un capteur de pression des pneus qui, juste pour des questions pratiques, va communiquer sans fil vers les calculateurs de la voiture. Ça peut être les différents périphériques des passagers, que ce soit leur téléphone portable ou autre, qui sont à l'intérieur du véhicule, ou ça soit des liaisons un petit peu plus grande distance avec soit les autres véhicules pour assurer des fonctions de sécurité routière, l'infrastructure elle-même, par exemple pour signaler qu'il y a des travaux dans 5 km, etc., voire des serveurs de l'informatique en nuage, ou cloud computing, pour remonter des informations de maintenance ou des appels de détresse si nécessaire, etc. Donc ça, c'est l'objet véhicule connecté. Et on sait en cybersécurité que dès qu'on va avoir de multiples canaux de communication, que l'on va avoir des calculateurs de plus en plus complexes, on va avoir de plus en plus de logiciels et de plus en plus de matériel, et ben la conjonction de ces deux facteurs, les canaux de communication et la complexité matérielle logicielle, vont ouvrir des chemins d'attaque potentiels pour un adversaire. Et ces chemins d'attaque peuvent, à cause des canaux de communication, être exploités éventuellement à distance.
Alors justement, on parle évidemment de ces adversaires, on l'a dit, vous me l'avez confirmé, pour le moment, les seuls auteurs connus, hein, d'attaques contre des véhicules connectés, c'était justement des chercheurs qui, eux-mêmes, essayaient de tester leur capacité ou pas à résister aux attaques. Les ennemis de demain, les attaquants de demain, ça pourrait être qui dans un contexte de voiture connectée puis autonome?
Alors, les attaquants de demain, ça peut être des attaquants d'aujourd'hui, comme quelqu'un qui veut voler une voiture, par exemple, et qui peut se servir d'un certain nombre de failles qui l'identifierait à distance pour pouvoir voler le véhicule plus simplement. Ça peut être, ou alors on peut aller jusqu'à de la criminalité, voire du terrorisme, où on pourrait éventuellement geler à distance toute une flotte de véhicules, créer des accidents, créer de la perturbation, et ça c'est la base du terrorisme.
Évidemment. Alors justement, on a parlé des capteurs, il y a aussi la question des algorithmes de sécurité, puisqu'on a parlé des algorithmes de décision qui posent toute une foule de questions éthiques, c'est-à-dire qu'est-ce que l'algorithme va choisir de faire dans telle ou telle situation, mais il y a évidemment des algorithmes de sécurité qui protègent ce système-là. Est-ce qu'ils sont au point aujourd'hui? Parce que là, clairement, on avait l'impression que c'était ça y est, c'était parti, c'était pour demain. Vous avez l'air plus réservé.
Alors, c'est un petit peu notre dada en sécurité, c'est de toujours être réservé, parce que la sécurité absolue n'existe pas. Ça, à moins d'avoir un système ultra simple enfermé dans un coffre-fort et qui fait rien, la sécurité absolue n'existe pas. Donc oui, il y a déjà des mécanismes de sécurité qui sont dans les véhicules actuellement, heureusement bien entendu, et l'objet de la chaire, c'est justement de développer de nouvelles techniques, de nouvelles familles d'algorithmes et autres, pour pouvoir sécuriser encore plus, si possible, le plus possible, le véhicule connecté de demain et d'après-demain.
Et justement, alors vous parlez souvent de souplesse d'algorithmes. Qu'est-ce que ça veut dire de ces algorithmes de sécurité?
Un algorithme de sécurité, de toute façon, surtout quand on parle du domaine de la cryptographie, donc qui permet d'assurer de la confidentialité, de l'intégrité, chiffrement et autres, on sait que c'est très difficile, voire impossible de faire un algorithme qui tiendra 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc il faudra le remplacer. Or, le problème de la voiture, c'est que son cycle de vie est potentiellement plus long, et donc il faudra à un moment remplacer cet algorithme-là. Et donc on étudie aussi des mécanismes qui permettent de remplacer, de modifier dynamiquement, sans avoir besoin de rappeler les véhicules, ces mécanismes de sécurité qui seraient, éventuellement, on aurait une faille et on pourrait la mettre à jour l'algorithme.
Et puis, des algorithmes de sécurité de plus en plus évolués qui seraient capables, par exemple, de continuer à fonctionner même si une attaque est réussie. Parce que ce qui est quand même assez fou dans ce que vous nous dites, contrairement à ce que nous disent nos collègues, qui nous dit qu'effectivement, alors en termes de décision, les algorithmes de décision, si on était dans un monde où il n'y avait que des voitures autonomes, on parle de voitures autonomes et pas de connectées, on aurait une chute drastique des accidents parce qu'évidemment, ces véhicules intelligents auraient en plus une logique commune et partagée. Vous dites 100% de sécurité, 100% de pas d'attaque, c'est pas possible.
Et c'est justement un des axes de recherche de la chaire qui est de dire, bah voilà, il y aura peut-être une attaque qu'on n'aura pas vue, forcément. Et donc, de pouvoir détecter dynamiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et potentiellement que c'est lié à une attaque, et d'être capable de reconfigurer dynamiquement le véhicule pour garantir au minimum les fonctions de sécurité de base, la direction, le freinage, etc., pendant un laps de temps suffisant pour que le conducteur, on est encore dans le cadre d'un véhicule connecté et pas autonome, que le conducteur puisse se mettre en sécurité, et donc que l'attaque, au minimum, ne mette pas en jeu la vie du conducteur et de ses passagers.
L'un des autres axes de recherche, je crois, sur lesquels vous travaillez, c'est de faire en sorte que faire une attaque, fomenter une attaque, soit trop coûteux en temps, en argent ou en énergie. C'est ça. Ça, c'est un des angles de la cybercriminalité. C'est extrêmement intéressant parce qu'on n'y pense pas souvent.
Alors, c'est l'angle fondamental qui est de concevoir le véhicule, d'avoir des méthodes de conception du véhicule qui permettent d'identifier dès la phase de conception les différents chemins d'attaque possibles et de mettre en place des contre-mesures pour parer ces attaques-là. Et ça se fait dès la conception du véhicule. Et donc, si on y a identifié le maximum de chemins d'attaque, il sera très difficile à l'attaquant, bien entendu pas impossible, hein, forcément des choses qu'on n'aura pas vues, de monter son attaque.
Voilà, ça lui coûtera trop. C'est-à-dire que le gain investissement bénéfice pour un attaquant, le but c'est qu'il soit le plus faible possible, quoi.
La plupart des attaquants cherchent un bénéfice, et donc il faut que le coût de l'attaque soit inférieur aux bénéfices qu'ils vont en tirer. Alors tous les attaquants ne jouent pas dans ce modèle-là. Certains attaquants ont éventuellement des moyens illimités, mais la plupart jouent dans ce modèle-là.
Alors je pose évidemment une autre question au-delà de ces questions pures de cybercriminalité. Cette chaire, elle existe, elle a été voulue, donc on l'a compris, à la fois par c'est une rencontre entre le monde académique et des industriels. L'industriel dont on sait qu'ils vont très très vite, parfois plus vite que la recherche. Il y a eu, on en a parlé, plusieurs chercheurs aux États-Unis, en France, en Europe, qui ont signé une forme de solenne d'alarme en disant « Attendez les amis, nous, les chercheurs, et la recherche ne va pas assez vite. Il y a un angle mort sur la recherche, sur les questions éthiques. Pourquoi est-ce que ces industriels, à un moment donné, ils ont décidé de faire appel à vous ? Et est-ce que vous avez l'impression que dans le monde entier, mais en particulier en France, la recherche est suffisamment mobilisée ? Barack Obama, dans une interview qu'on lui posait à la fin de son mandat sur le rôle que l'État doit jouer dans, par exemple, une révolution industrielle comme celle des véhicules autonomes, disait « Nous, notre principal boulot, c'est de devoir organiser un dialogue entre les industriels et la recherche ».
Alors, les industriels ont déjà des équipes de recherche et développement qui travaillent sur la sécurité.
Mais qui dépendent d'eux-mêmes.
Télécom Paris-Tech est une école reconnue dans le domaine du numérique et de la sécurité. Donc, on a un certain nombre de chercheurs qui sont reconnus internationalement dans ces thématiques-là. Et l'idée, un petit peu, de la création de cette chaire, c'est vraiment de travailler conjointement industriel académique pour développer non pas des solutions pour le véhicule aujourd'hui, mais éventuellement des solutions un petit peu en avance, de nouvelles choses, de nouvelles façons de penser, de nouvelles méthodes d'analyse. Et c'est un petit peu le gain à avoir couplé à la fois des académiques qui ont une recherche un petit peu plus amont et des industriels qui, eux, ont des besoins pratiques immédiats.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la recherche académique peut penser les choses peut-être plus sur le long terme que des gens qui, parfois, sont de très bons chercheurs, mais quand on est au sein des industries, on a en plus des échéances qui sont quand même à beaucoup plus court terme. Et la question de l'investissement qui reste cruciale. Est-ce que vous avez l'impression, je pose une question ouverte, que justement le plan annoncé par exemple Emmanuel Macron intègre suffisamment cette question-là? On sait aussi qu'il y a eu un livre blanc pour une éthique du véhicule autonome qui a été publié en mai dernier par exemple par l'INRIA, qui est l'un des principales institutions qui travaille sur l'intelligence artificielle en France.
Alors en tout cas, les autorités de l'État sont très intéressées par les travaux de notre chaire. Notamment, on a la délégation à la sécurité routière et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc qui sont deux agences de l'État qui sont extrêmement intéressées et qui font partie du comité de pilotage de la chaire pour justement suivre ces travaux qui les intéressent, bien entendu, au premier lieu.
Merci beaucoup Guillaume Duc d'avoir été avec nous ce soir pour parler donc de véhicules connectés, mais pourquoi pas bientôt de véhicules autonomes. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Télécom Paris-Tech et que vous êtes donc le co-titulaire de cette chaire.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Voilà, comme chaque semaine, il est 20h11, comme chaque semaine depuis une année, le débat, le numérique et politique dans Soft Power sur France Culture réunit deux personnalités du numérique de différentes sensibilités. Et depuis un an, ils et elles ont été plus d'une trentaine à intervenir à ce micro. J'aimerais d'ailleurs les citer ce soir, puisque cette émission est la dernière de la saison. L'ancien ministre Jean-Jacques Ayagon, les députés ou anciens députés Hugo Bernalicis, Éric Botorel, Jean-François Césarini, Paula Forteza, Jean-Marc Germain, Laure de la Rodière et Christian Paul, et puis les spécialistes du numérique, Gaël Duval, Gaspard Koenig, Elliot Lepers, Séverin Audet, Romain Pigenel, Nicolas Prinsen et donc Alice Zaguri. À partir de la rentrée en septembre, un nouveau format sera lancé, mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez ce rendez-vous à la fois pédagogique et spécialisé de débats sur le numérique. Et pour terminer cette année, ce soir, on parle, au fond, c'est le sujet qui aurait pu nous occuper, qui nous a un peu occupé toute cette année, demain tous entrepreneurs, point d'interrogation. La figure de l'entrepreneur a comment dire le vent en poupe. Le président de la République Emmanuel Macron fait souvent référence aux start-upers et en rencontre d'ailleurs régulièrement. Créer son entreprise, créer son business, faire sa start-up, sa propre structure est souvent symbole de réussite, au moins pour certains, alors que pour grand nombre d'entrepreneurs, tout n'est pas toujours rose. Les statuts liés à l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat évolue. La France connaît une croissance importante du nombre d'auto-entrepreneurs. Ils étaient 300 000 en 2009. Ils sont plus d'un million depuis 2016. Alors, est-ce qu'on évolue vers un modèle de société où tout le monde doit ou veut ou voudrait devenir entrepreneur? Est-ce une solution? Avec une multiplication du nombre d'entreprises et de travailleurs à leur propre compte, est-ce souhaitable? On en parle avec Alice Zaguri. Vous êtes la patronne de The Family et Elliot Lepers. Vous venez de fonder l'ONG Le Mouvement. On commence peut-être par vous, Alice Zaguri. The Family, c'est une société de développement de start-up qui n'est ni un incubateur, ni un investisseur, ni un accélérateur, mais un peu tout cela à la fois.
Exactement. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Donc The Family, c'est un peu une école pour start-up. Mais c'est pas l'école tradi, ce sera plus l'école type Montessori. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux différents secteurs qui sont représentés par nos start-up. Et en fonction de chacun des entrepreneurs, on va offrir de l'éducation, des outils et l'accès au capital.
Vous investissez parfois dans ces start-up?
Alors non. En fait, en gros, on a un pool de Godfathers qui sont des investisseurs.
Proches de vous.
Exactement. Qui sont des gens qu'on va recommander à nos entrepreneurs quand ceux-là sont prêts. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on a démarré The Family avec mes deux associés qui sont Nicolas Collin et Oussama Amar. Et on l'a démarré...
Dans des très beaux locaux près de la Bastille, apparemment.
Alors ouais, au bout de la deuxième année, on a eu la chance de pouvoir rentrer dans ces locaux magnifiques dans lesquels on a tourné beaucoup de nos vidéos.
Alors, si on en vient au sujet du débat, est-ce qu'une société, la cité française, où tout le monde devrait devenir entrepreneur, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est inéluctable,
ouais,
selon vous?
Alors, bon, moi, je suis pas politique, hein, d'accord? Donc, je vais pas donner une vision méta, je peux parler de mon parcours et de ce que j'ai vu. Et en fait, le truc, c'est que moi-même, je viens pas du milieu business, je viens pas d'un milieu geek, techno, enfin, j'étais pas ingénieur, quoi, à la base. Et au contraire, même mes parents, enfin, mon père, et comme ma mère d'ailleurs, étaient fonctionnaires. Donc, j'ai pas eu un amour.
L'habitus.
voilà, dans ce jeu, pour la figure entrepreneuriale, c'est ça que je dirais. Et j'ai commencé
On ne naît pas start-upeuse, on le devient.
Je pense, et en fait, ce qui va rabattre les cartes, c'est Internet. Parce que tout d'un coup, il y a une nouvelle figure qui apparaît, qui est jeune, qui ne demande pas la permission. Qui résout des problèmes.
Le geek, quoi.
Pas ah nécessairement
non,
le geek.
Le start-upper.
Non, parce que c'est un esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui permettent à n'importe qui de s'exprimer et de proposer son service qu'on n'a plus besoin de savoir coder. Par contre, l'esprit du hacking, lui, il est important. C'est-à-dire, si je n'ai pas la permission, je me la donne. Voilà. Et moi, ce qui va me plaire à cette époque, au moment où je commence à rentrer de manière absolument hasardeuse, hein, je veux dire, j'étais employée d'une asso et je devais travailler pour des artistes. Et je tombe sur des geeks qui voulaient travailler avec des artistes et c'est là que je me rends compte qu'il y a un potentiel énorme. Et c'est là que je vais commencer à me dire, à m'y intéresser, à me dire qu'il faut les accompagner et il faut les accompagner pas de manière traditionnelle.
Tout le monde entrepreneur, souhaitable, possible, inéluctable, Elliot Lepers.
En tout cas, il y a un bond dans la création d'entreprise, hein, 4,7% de plus en 2017 par rapport à l'année précédente. Dans ce chiffre, c'est quand même 40% de micro-entreprises, donc les anciens auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses. Et donc ça couvre plein de réalités différentes. Donc il y a évidemment pas mal de gens dans des jeunes générations notamment qui veulent s'affranchir d'un certain ordre établi, qui ne voient pas leur vie dans un salariat, dans des carrières longues au sein de la même entreprise. Évidemment, ça c'est un moteur. Mais derrière, pour moi, il y a aussi une dégradation des conditions de travail, la précarisation, dans la radio aussi, hein, on le voit partout.
Les intermittents du spectacle
notamment.
À la radio, oui.
Donc il y a un mouvement général pour pousser tout le monde à quitter le modèle du salariat et la protection, le système de, pro- protection sociale qui avait été, qui a mis du temps à se construire.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que si on crée sa start-up, si on est auto-entrepreneur, on paye ses cotisations. C'est-à-dire que, en tout cas, pour une société de type SAS, SARL ou même SAS personnalisé, il faut compter à peu près souvent de l'ordre de 50%, si on veut se salarier par sa propre société, de l'argent qu'on reçoit qui part en charge, etc. Ce qu'on oublie très souvent quand on crée ce type de business, et du coup, soit on est mal couvert, soit on gagne mal sa vie.
Ou bien pas de chômage du tout, pas de retraite pour les micro-entrepreneurs. Quoi. Donc c'est un changement de modèle.
Alice Zaguri.
Ouais. En fait, je crois que le mouvement, de toute façon, il est global. Donc, il y a personne qui a décidé que l'entrepreneur devait venir. L'entrepreneuriat vient parce que c'est un phénomène qui est global. Et la question, c'est plus comment est-ce qu'on le transforme. C'est-à-dire, quand je comprends complètement ce qui est dit, et c'est vrai, on voit par exemple arriver tous ces jeunes qui font du Deliveroo à vélo dans des conditions qui sont vraiment nulles,
pareil même pour le chauffeur
voilà,
Uber,
c'est pareil.
Oui. Uber Eats.
Et moi, ce que je vois, et je sais que ça va paraître un peu niais parce que je vois le verre à moitié plein, c'est que ces gens-là, on les voyait pas avant. Et que c'est une première marche. Après, c'est à nous de pas accepter les conditions et de les changer. Mais est-ce qu'il faut regarder le fait, est-ce qu'il faut juger de manière fixe le fait que c'est pas acceptable, ou est-ce qu'il faut se dire bon, bah, il y a un progrès quand tu regardes où ils étaient, où ils sont. Maintenant, c'est à nous de faire bouger les lignes pour que il y ait des meilleures conditions. C'est clair. Et mon associé Nicolas là, il va sortir un bouquin qui s'appelle Edge, qui sera exactement sur ce sujet-là, parce qu'en fait, il faut que la protection sociale, elle s'adapte à cette ère numérique, quoi, et qu'elle est pas adaptée. Mais les gens vont de toute façon de plus en plus avoir besoin, si c'est pas d'être entrepreneur, c'est d'être entreprenant. C'est-à-dire de bénéficier de plus de flexibilité, de choisir son lifestyle, de travailler de la maison s'ils ont envie. Et ça, c'est un mouvement qui j'ai envie de dire qu'il faut encourager, quoi.
Alors effectivement, quelles sont les priorités à établir dans ce contexte-là, avec de l'entrepreneuriat qui effectivement est parfois volontaire et aussi, il faut le rappeler, subi, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, à qui on impose d'être freelance aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart, beaucoup de jeunes entreprises ne travaillent plus avec des salariés et travaillent avec des gens à qui on propose, voire on impose d'être freelance. Donc du coup, c'est quoi la question? Il y a la question des droits sociaux, il y a aussi la question de l'échec, parce que quand même, il ne faut pas oublier, je n'ai plus les taux en tête, mais probablement vous les avez vous, sur ces start-upers, il y a quand même un darwinisme incroyable. Qu'est-ce qui deviennent ces entrepreneurs qui n'ont pas réussi, entre guillemets? On sait qu'il y a toute une légende américaine
du droit
réelle,
à l'échec.
Du droit à l'échec. Est-ce que ce droit à l'échec existe aujourd'hui en France?
Échouer rapidement, tout
voilà,
fail,
alors
quick.
On sait qu'en France, je crois que quand vous avez deux dépôts de bilan ou deux faillites, vous n'avez plus le droit de monter une entreprise.
Ouais, non mais ça c'est complètement vrai. Et c'est d'ailleurs interrogé, c'est en train de changer. Le truc de l'entrepreneur, en fait, c'est qu'il y a plusieurs figures entrepreneuriales. D'abord, juste, t'as le start-upper qui, lui, est hyper ambitieux et qui veut ce qu'on appelle un business model qui soit scalable. D'accord?
Donc, qui puisse se développer rapidement.
Passer à l'échelle. Voilà, passer à l'échelle, merci. Et puis, t'en as d'autres. T'as d'autres modèles. Hein. T'as ce qu'on appelle des lifestyle business qui peuvent aller très loin, mais où t'es pas dans une recherche de passage à l'échelle et t'es dans autre chose. Donc, en fait, c'est de plus en plus accessible pour de plus en plus de monde. Maintenant, ta question, c'est...
La question, est-ce que la priorité, c'est d'avoir des meilleures protections sociales pour ces entreprises qui se lancent? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne s'en sortent pas, en fait? Quel est l'avenir des entrepreneurs qui ont échoué? Et on sait que les taux sont importants. Parce qu'on parle là, et c'est très bien, de ce grand mouvement qui naît de ces taux-là, 4,7% de plus. On sait très bien qu'il y en a peut-être trois qui ne seront plus là l'année prochaine. Bah, qu'est-ce qu'il advient de ces gens-là?
Ce que je vois à The Family, en fait, c'est effectivement, en dehors de Family, tu as un taux d'échec de 90%, à l'intérieur, c'est à peu près 60% des boîtes qui se cassent la figure. Ces boîtes-là, elles vont te dire bah, nous, on a gagné une expérience et du coup, les mecs se connaissent entre eux, c'est souvent des mecs, et ils vont rejoindre les meilleures startups. D'accord ? Et
celle qui marche.
Celle qui marche. Après, t'as un phénomène aussi que tu constates dans les grands groupes, c'est que eux, ils arrivent plus du tout à attirer des jeunes vifs qui ont une expérience entrepreneuriale et ils essaient de les faire venir chez eux, quoi. Et donc là, il y a peut-être un intérêt qui se trouve et qui fait que ils vont avoir le fait d'avoir monté une boîte et de pas l'avoir réussi, ça peut devenir un avantage pour toi pour trouver un taf.
Et de Perse, cette question a été évoquée notamment au fond des modes de vie. Est-ce que dans l'image de ceux qui aiment le monde de la start-up, le monde au fond de l'auto-entrepreneuriat, du freelance, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, mais c'est aussi une autre mode de vie. On est le seul à décider, on n'a pas de patron, on peut travailler de chez soi. Tout ça, ça contribue aussi à cette fascination pour ce type de carrière, même si elle a aussi, on l'a dit, des risques et aussi tout un tas de problèmes sociaux.
C'est vrai que ça peut faire rêver. Hein. Après, quand on regarde dans le détail, c'est en moyenne, c'est 58 heures par semaine quand on est chef d'entreprise, le temps de travail. Quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y en a qui font beaucoup plus. C'est en moyenne, en général, 6 jours sur 7 pour tout le monde. Donc, il y a à la fois effectivement une fascination pour la liberté que ça procure et puis pour l'accomplissement, pour se dire, je choisis le travail et puis je produis quelque chose de mes mains directement, sans subir d'une certaine manière.
C'est très lié aux millennials, on dit aussi, c'est-à-dire à ces nouvelles générations.
Ouais, totalement. Et c'est clair que ça va conjointement avec une aspiration à retrouver cette liberté, retrouver cette indépendance, cette forme d'autorité aussi, et donc se détacher de l'autorité de l'institution. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que ça transforme l'ensemble de la société. C'est-à-dire que ça pousse notamment les vieilles entreprises, les grandes multinationales, les grands groupes, et notamment en France, ça les force à se réinterroger parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à recruter grâce à l'émergence de cette culture, d'une certaine manière. Et donc, à proposer des métiers qui ont plus de sens, à proposer des évolutions de carrière qui sont différentes. Donc
c'est à autoriser qu'on travaille de chez soi.
Notamment. Donc c'est à la fois positif sur le fond et sur la vague parce que ça permet de faire rentrer un peu d'air frais là-dedans. Et en même temps, il faut faire gaffe à ce que ça cache pas, d'une certaine manière, l'appauvrissement des conditions de travail.
Zoé.
Moi, j'ai quand même une question, qui est plus une déclaration qu'une question, mais on a toujours l'impression que quand on parle des millennials qui ont envie d'être entrepreneurs, on a l'impression que c'est aussi un truc d'enfant gâté, ou en tout cas d'exigences qui sont nouvelles. C'est aussi un contexte du monde du travail qui est plus du tout le même que celui d'il y a 10 ou d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que quand on est salarié, on peut être payé relativement mal et travailler beaucoup. Il est possible aujourd'hui de trouver des entreprises où on vous demande de faire ces 58 heures sans que ce soit votre entreprise. Et puis on est aussi dans un contexte où on a des jeunes qui parfois restent au chômage très longtemps en sortant de leurs études et donc qui parfois se mettent à fonder des boîtes aussi parce que pour le moment personne ne les attend. C'est aussi des vraies questions. C'est que le monde
avec
du travail en lui-même a changé.
La fameuse formule, puisqu'on est au chômage, le seul moyen de trouver un emploi c'est de créer son emploi et de créer sa boîte pour avoir son propre emploi.
Ouais, l'emploi est un des plus gros financeurs. Est-ce que c'est mal en soi en fait ?
C'est pas mal en soi, c'est juste que comme il y a cette espèce de mythologie du millénial plus exigeant, qui a du mal à se plier. Je rappelle aussi que le millénial arrive dans une situation économique qui n'est plus celle d'il y a 30 ans, et que ça n'est donc pas juste des désirs absolument exigeants de la part de ces jeunes gens qui ont envie de se passer d'un patron, c'est aussi qu'ils arrivent dans un contexte qui aussi les pousse à
ça. Il n'y a plus de patrons qui veulent les embaucher. Alice Zaguri, on rappelle quand même que le millénial, c'est celui qui, au fond, est arrivé à l'âge adulte, entre 10 et 20 ans, autour de l'année 2000, donc c'est des gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans.
Écoute, moi, encore une fois, de ce que je vois, je ne les vois pas subir ça. Et je n'ai pas un accès à l'ensemble des Français millennials. Ce que je vois arriver, c'est eux qui m'expliquent la vie. Ils sont en train de prendre des cours sur Coursera, ils suivent des tutos sur YouTube. Ils créent leur propre chaîne sans demander quelques permissions que ce soit à qui que ce soit. Et certains font des muses. Alors, on a vu ça récemment arriver à The Family.
C'est quoi des muses?
On a créé une classe de jeunes de 15-23 ans, ils étaient 20 et en gros ils avaient déjà des petits revenus récurrents qu'ils créaient en faisant ce qu'on peut appeler du dropshipping par exemple, c'est-à-dire tu regardes des produits amusants qui sont vendus sur Alibaba, tu fais ta petite sélection et puis tu les vends ici et puis ça te crée un revenu et ça t'offre une indépendance. Et en fait je pense que c'est pas suffisant. Mais c'est mieux que ce qu'il y avait, le fait qu'il n'y avait pas ça avant, en fait. Et qu'ils sont en train de devenir un peu plus indépendants. Je pense que la question autour de laquelle on tourne aussi, c'est notre rapport à l'argent. Vachement. Et moi, ce que j'ai vu qui a été questionné, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de cette nécessité et cette insécurité-là. Et Internet peut aider là-dessus.
Peut-être une dernière remarque avant la fin de cette émission, et d'ailleurs la dernière de l'année, Elliot de Perse.
Le dernier mot.
Les derniers mots.
C'est aussi intéressant de voir qui sont les créateurs, et je dis volontairement créateurs et pas créatrices d'entreprise, parce que c'est quand même très très majoritairement des hommes, très très majoritairement des hommes blancs. Donc c'est encore une fois...
L'entrepreneuriat n'est pas très inclusif. Hein.
Voilà. Alors, c'est un idéal l'inclusion. On pourrait se dire, effectivement, ça permettrait à des gens qui seront discriminés, s'ils postulent à des postes normaux, de créer leur propre poste. Aujourd'hui encore, c'est les personnes qui ont accès le plus aux privilèges qui ont la possibilité de créer ces entreprises. Donc, où est-ce qu'on peut changer ça?
Oui et non.
Oui ou non? Rapidement, un mot.
Écoute, t'as jamais eu autant de gens qui peuvent venir de n'importe où,
bien sûr.
En fait. C'est juste ça
c'est
la différence.
Promesse.
C'est qu'avant, t'avais des privilèges, t'avais la voix qui était assurée. C'est aujourd'hui, ça. Internet rabat les cartes et n'importe qui peut potentiellement s'imposer.
Mais tout le monde ne s'en sent pas la légitimité.
Bien, allez, voilà. on en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous deux, Elliot Lepers, Alice Zaguri. On se quitte d'ailleurs avec le nouvel album de Gorillaz, le titre Humility, avec George Benson. En plus, un Gorillaz qui sera en concert le 21 juillet au Vieille Charrue et le 22 juillet à Paris, à l'Hippodrome de Longchamp. Voilà, voilà, gare aux Gorillaz. Pour terminer la saison, il fallait une blague qui fait rire personne.
On arrive silencieusement.
C'était pour nous ce soir à Soft Power, la dernière émission de la saison. Nous retrouverons le dimanche 2 septembre, toujours 19h à 20h30 pour une nouvelle année, une nouvelle saison, la 13e de Soft Power, avec des nouveautés, de nouvelles voix, de nouvelles rubriques. On vous en dira plus le dimanche 2 septembre. Merci Zoé Svez d'avoir passé cette année à nos côtés.
Merci beaucoup Frédéric.
On vous retrouve en septembre. En attendant, nous prenons nos quartiers d'été. France Culture commence dès demain matin une grille spéciale, car si cette émission est la dernière de la saison, ce dimanche est aussi le dernier jour de la grille permanente, entre guillemets, de France Culture. Dès demain matin, c'est notre grille d'été qui commence, avec des surprises, de nouvelles voix également, de nouvelles émissions aussi, et toute une série de programmes que vous pouvez découvrir sur notre site franceculture.fr. On vous souhaite donc à tous et à toutes un bel été sur France Culture et déjà une bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Dans un instant, Carbone 14.